Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à l'heure juste sur les ondes du 97.3. Mon nom est Simon Dominé, directeur de l'information à CAGAFM, et je vous retrouve en ce midi 10 décembre 2025 pour cette émission d'affaires publiques. Depuis son adoption le 25 octobre dernier, la loi 2 sur la rémunération et l'accès aux soins des médecins au Québec continue de faire couler beaucoup d'encre. Dans les dernières semaines, CAGAFM a d'ailleurs abondamment couvert cet enjeu qui n'épargne pas la vallée de la Gatineau. À titre d'exemple, le 26 novembre dernier à Gracefield, des médecins et des élus municipaux ont réclamé la suspension de cette loi controversée. Et la semaine dernière, des résidents de la circonscription de Gatineau ont remis 2000 lettres au bureau du député Robert Bussière pour manifester leur désaccord avec le gouvernement. C'est dans ce contexte tendu que la salle des nouvelles a reçu une proposition d'entrevue avec Pierre Blin, directeur général de l'organisme Les Usagers de la Santé du Québec. Il pense que les médecins doivent être plus redevables d'une partie de leur rémunération, mais il critique l'approche autoritaire du gouvernement Legault. Mon collègue Alexis Goyer, journaliste à la salle des nouvelles, vous présente ça en deuxième partie d'émission. On commence l'heure juste avec une autre entrevue réalisée par Alexis, cette fois avec le président du syndicat du personnel enseignant des Hautes-Rivières, Daniel Boisjoli. Pourquoi on lui parle? Eh bien parce que lui aussi en a après l'approche du gouvernement Legault, mais cette fois dans le domaine de l'éducation. Monsieur Boisjoli critique le nouveau code d'éthique que le gouvernement Legault impose dans le réseau. Écoutez pourquoi. Au 97.3, on vous donne l'heure
juste. Nous sommes avec Daniel Boisjoli, qui est président du syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières. On est ici pour parler du nouveau code d'éthique dans le milieu scolaire qui a été imposé récemment par le gouvernement du Québec. Celui-ci stipule que le personnel scolaire doit agir avec loyauté envers les centres de services scolaires. Certains craignent un certain musellement du milieu de l'éducation. Pouvez-vous nous en parler?
Quand un centre de services scolaires vient intégrer dans ses politiques, dans ses mesures, un code d'éthique, peu importe les mesures qu'il vient intégrer, habituellement, le personnel est consulté, ce qui n'a pas été le cas. Parce que quand le ministère donnait ça au centre de services scolaires, il est venu dire c'est non discutable, c'est ça que vous mettez, vous pouvez le bonifier. Mais il n'est pas question que vous puissiez le modifier. Vous ne pouvez pas changer ce qu'il y a dedans. Là. À part en ajouter, vous ne pouvez pas le modifier. Puis il y a des enjeux avec ce code d'éthique-là qui est contesté à la fois par grief, mais aussi par les syndicats, là, mais aussi par la centrale des syndicats au tribunal administratif du travail. Là, puis je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ben, on n'est pas en désaccord là, avec tout ce qui est là-dedans. Loin de là, il y a des bonnes choses dans le code d'éthique. Parce que, bien entendu, tout le volet de justice et d'équité, là, il y a des droits là-dedans que nous partageons, bien entendu. Là. Quand on parle du droit à l'égalité des chances pour nos élèves, il y a certains droits fondamentaux garantis pour la Charte des droits et libertés pour les enfants. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Tout ce qui est là, le droit à la non-violence, à l'intimidation, c'est des droits importants là, à faire valoir. Là où ce que c'est questionnant pour le personnel enseignant, en tout ce qui concerne la neutralité en lien avec la liberté d'expression, c'est un peu ça aussi qui est contesté là, de la part de nos centrales, parce qu'il y a un des éléments qui vient dire qu'il faut éviter de faire de la promotion sur nos croyances politiques. Mais ça, c'est très large. C'est quoi une croyance politique? Par exemple, si un parent vient aborder puis vient dire que le changement climatique, c'est une orientation ou une croyance politique, est-ce que l'enseignant peut en discuter avec le parent? Est-ce que ça contrevient au code d'éthique? Est-ce que maintenant, on est-tu muselé? Est-ce qu'on ne fait pas, on contrevient pas à la liberté d'expression? Vous savez, c'est questionnant. Fait que c'est pas balisé tout ça. Puis il y a plein d'éléments comme ça. Je peux vous en donner. Là. Je vous le dis, c'est écrit noir sur blanc. Tout membre du personnel appelé à œuvrer auprès d'un élève doit fournir la pression de travail attendue. Et c'est écrit ça, là. Ça, c'est pas de nature éthique. Ce sont des obligations qui sont contractuelles relatives à nos contrats de travail. C'est même encadré déjà par nos conventions collectives puis par le Code civil du Québec. On ne sait pas ce que ça fait là-dedans. C'est très infantilisant. Puis d'autres exemples, là, écoutez, participer activement à la vie scolaire, ça va jusque-là, en contribuant au développement de sa communauté. Ça, c'est pas un code d'éthique, c'est un souhait, c'est un idéal collectif, c'est pas une obligation éthique de faire du bénévolat. Ça, comment on peut interpréter ça? Imaginez l'enseignante qui est monoparentale, qui a 3 ou 4 enfants, ça veut dire quoi? Si elle n'a pas le temps de faire de bénévolat, elle pourrait se retrouver avec une mesure disciplinaire. Peut-être que j'exagère un peu, mais concrètement, sur papier, c'est peut-être ça que ça veut dire. Fait que il y a beaucoup d'éléments. Puis ça va loin, là. Ça va loin dans le devoir de loyauté, là. Les gens se sentent muselés par ça. Un autre exemple intéressant, c'est que tout membre du personnel doit agir avec loyauté envers son organisme scolaire en respectant leur mission, les valeurs, le plan d'engagement, le projet éducatif, tout en cours d'emploi. Ça va jusque-là. Et après, ça veut dire que tu ne travailles plus pour le centre de service scolaire, mais tu dois encore partager leur mission éducative. Ça veut dire que je prends ma retraite à 60 ans, puis je dois encore à 80 ans partager la mission et le projet éducatif du centre de service scolaire. Là, c'est quoi? Là?
C'est un contrat à vie, en quelque sorte.
Pardon?
C'est un contrat à vie, en quelque sorte, jusque dans la tombe.
Ben oui. Fait que là, je dois avoir un devoir de loyauté. Ça veut dire que je ne peux pas dire que le centre de service scolaire offre des services inadéquats sur la place publique parce que je pourrais recevoir une mise en demeure par le centre de service scolaire. Ça se peut pas, là. Fait que nous, on considère que les dispositions de ce code d'éthique-là semblent aller bien au-delà, notamment en imposant une surveillance qui est excessive des comportements, mais aussi des interactions du personnel, non seulement avec les élèves, mais tout aussi, aussi dans les relations professionnelles et personnelles à la fois, au travail, mais aussi en dehors du travail. Donc, on considère que c'est pour ça que c'est allé parce que présentement, on est allé plaider au tribunal administratif avec ce dossier-là. D'ailleurs, que le dossier étant délibéré, le TAT, on appelle ça le TAT, le tribunal administratif du travail, a délibéré, n'a pas rendu sa décision encore. Parce que là, c'est un dossier qui est très, très important, là, parce que on considère que le code risque de limiter la liberté individuelle et personnelle, mais aussi dans les milieux, ça peut risquer de créer un climat de suspicion et de dénonciation permanente, en plus de tout détériorer l'environnement de travail, l'éthique par nature. Donc, pouvoir s'exprimer différemment à travers des choix qui sont conscients, réfléchis, et non à travers des obligations rigidement définies qui semblent sous-estimer la capacité du personnel à agir de manière responsable et professionnelle. Et, à notre sens, doit s'inscrire dans un cadre qui vient plutôt valoriser le travail réalisé par le personnel, tout en garantissant la cohésion, le respect des valeurs communes que nous partageons. Alors, c'est pour ça, parce que le MEC impose non seulement la forme, mais aussi le fond de son code d'éthique sans aucune consultation syndicale. Selon nous, ça constitue une entrave à nos conventions collectives sur l'obligation de nous consulter, sur la mise en place d'une politique. Alors, voilà pourquoi il y a des griefs qui sont déposés, qui seront entendus en arbitrage, et nous attendons une décision du tribunal administratif parce que ce code d'éthique contreviendrait, selon notre centrale syndicale, à la liberté d'expression et que le devoir de loyauté va beaucoup trop loin.
Est-ce qu'il y a une dérive du gouvernement à ce niveau-là?
Ben, absolument, à ce niveau-là, puis je vous dirais à plusieurs niveaux, là. Je terminerai en saluant tous mes collègues enseignants là, pour le code d'éthique. Bien, on va leur donner des nouvelles dès que possible là, concernant la décision du tribunal administratif en lien avec ce qui va se passer pour la suite.
Eh bien, cette entrevue-là va leur permettre de vous entendre. Merci encore d'avoir accepté de nous parler.
Ça me fait plaisir, M. Loyer.
C'était Daniel Boisjoli, qui est président du syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières.
Restez avec nous sur les ondes du 97.3. On fait une courte pause publicitaire et l'heure juste reprend tout de suite après. On va entendre le directeur général de l'organisme Les Usagers de la Santé du Québec, Pierre Blin, nous donner son point de vue sur la loi 2 concernant la rémunération des médecins. Elle doit entrer en vigueur en janvier prochain et fait toujours beaucoup de vagues.
Au 97.3, on vous donne